Bonjour et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. Vous pouvez ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte. Je suis aussi l'auteur du blog grainesdecoeur.fr et aujourd'hui c'est un épisode spécial, c'est l'épisode 200. Donc un épisode spécial sur le couple sur lequel je réponds à tes questions, à vos questions. Que dire, 200 épisodes, ça fait, j'ai même oublié, mais ça fait 5 ans que j'ai créé l'émission, peut-être 6, j'ai oublié, et puis j'ai regardé il y a quelques semaines, le blog, lui, il date un peu plus, même si j'ai arrêté d'écrire des articles, il y a une centaine d'articles sur le blog, j'ai passé beaucoup de temps ces dernières années à écrire, à apprendre, à expérimenter dans mon propre couple, dans mes propres couples, parce que j'ai été, depuis ce blog, depuis ce podcast, il y a eu deux relations principales dans ma vie, il y a mon ex-épouse et ma compagne actuelle. Donc deux relations très importantes qui ont marqué pas mal ce que je te partage, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été révélées, qui ont été testées, on va dire, dans ces relations. En général, moi, mon approche m'intéresse à tout ce qui touche au couple, donc je vais écouter, je vais lire, que ce soit des psychologues, que ce soit des maîtres spirituels, voilà, un peu de tout horizon. Je parle souvent des États-Unis à l'Inde en passant par l'Europe. Je m'intéresse un peu à tout ça et puis régulièrement dans les chaînes que je suis, je sais pas si c'est une veille, mais dans le contenu que je consomme, il y a des choses sur le couple et des fois je vais chercher des sujets en particulier, des thèmes en particulier, soit pour accompagner quelqu'un, soit c'est ce que je vis tout simplement dans ma vie à moi en fait, et ça me questionne et j'ai envie d'apprendre et je suis curieux. Donc vraiment cette démarche qui est bien plus longue, qui était là avant le blog en fait, c'est pour ça que j'ai voulu commencer à te parler du couple, hein. C'est parce que moi j'avais déjà fait ces recherches-là pour moi et expérimenté pour moi depuis quelques années avant de me commencer, donc ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que j'ai fait ce chemin de m'intéresser à la vie amoureuse, à ce que c'est d'être en couple, les possibilités que ça offre, comment on peut transformer tout ce qui touche à la relation, que ce soit moi, que ce soit le nous, et transformer l'autre, ça dépend pas de moi, mais peut-être choisir un autre avec qui être en couple un peu différemment que ce que je faisais avant, que ce qu'on fait naturellement, on va dire, des fois nos manières de rentrer en relation, de choisir nos partenaires sont pas toujours les bonnes, et ce choix du partenaire il est essentiel, parce que c'est compliqué de construire quelque chose avec quelqu'un si le choix à la base n'est pas le bon, entre guillemets, ou c'est pas qu'il n'y a qu'un bon choix, je vois pas ça comme ça, moi je vois ça, il y a plusieurs bonnes personnes, on va dire, avec qui se mettre en relation, pour différentes raisons aussi, éventuellement, selon tes projets, selon tes envies. Donc voilà, donc c'est un cheminement pour moi de plus d'une décennie sur le couple, sur cette curiosité vraiment de la vie amoureuse. C'est quelque chose qui pour moi date même, je sais pas, le couple a toujours été important depuis que je suis enfant. Il y a toujours cette curiosité pour les relations amoureuses quand j'y repense depuis assez petit en fait. J'ai toujours été amoureux, des fois secrètement, des fois moins secrètement. Et il y a toujours eu quelque chose autour de l'amour pour moi, de la relation à l'autre, dans mon cas les femmes, mais ça peut être, voilà, c'était une femme, un homme, c'était une femme, une femme, c'était un homme, une femme ou un homme, peu importe, il y a ce sentiment de l'amour, quoi, de quelque chose qui est là, qui a amené une certaine curiosité pour moi, quelque chose que j'avais vraiment envie d'explorer dans ma vie, quoi, la relation, être avec quelqu'un d'autre, partager des choses avec quelqu'un d'autre. Et donc je vais aujourd'hui, pour faire un peu différemment d'habitude, j'ai collecté une dizaine de questions, je ne sais pas si on les fera toutes, ça dépend un peu du temps que je prends à répondre, je fais ça un peu en freestyle, si je vois que ça prend trop de temps, soit on gardera pour un prochain épisode, soit si, voilà, on verra un peu, j'ai un peu trié dans l'ordre de ce qui me paraissait le plus important à dire, de moins pour moi, de mon point de vue à moi, peut-être que si tu as envoyé une question, dans tous les cas, elle était importante. Donc qu'elle soit que j'y réponde ou pas aujourd'hui, elle est tous les cas importante pour toi. Il y a peut-être juste des choses sur lesquelles j'ai plus de choses à dire ou qui me paraissent peut-être aussi des questions que je peux étendre à plus de monde plus facilement. Des fois il y a des questions qui sont très spécifiques à une relation très spécifique et c'est dur de pas de broder mais de ramener ça à un contexte un peu plus large avec des outils qui vont être utiles à tous les auditeurs. Ou du moins à plus d'auditeurs. Donc là, j'essaie de prendre des questions qui vont aller dans ce sens-là, qui devraient être utiles à toi aussi, très probablement. Et voilà, et si ça ne l'est pas, peut-être que ce sera utile plus tard, ou peut-être que c'est utile pour un ami, une amie, quelqu'un que tu connais. N'hésite pas à leur partager l'émission. Vous êtes toujours on reste une petite audience sur En Amour. D'ailleurs, je vais sûrement changer le nom de l'émission. Je vais sûrement appeler ça En Amour, parlons couple avec Nicolas Rocher. Donc c'est moi. Pour essayer d'être un peu plus visible, on va dire. Un des challenges, et pour être honnête avec toi, c'est la visibilité de l'émission. L'audience reste très petite après 200 épisodes. Je connais pas beaucoup de créateurs de contenu qui auraient continué à faire 200 épisodes avec une audience si petite. Et en même temps, bah, pour moi, c'est important. Et en même temps, pour moi, c'est des choses qui me semblent essentielles. Le couple, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qui est important. Donc voilà, plutôt que de faire un reboot, de commencer ou de jeter l'éponge ou de faire autre chose, me dire, bon, ben voilà, on va déjà essayer. J'avais déjà changé le nom il y a quelques temps. J'avais rajouté mon nom et mon prénom pour que ce soit un peu plus identifiable. Je pense que je vais rajouter le Parlons Couple dans le titre. Je me rends compte que ce soit Graines de Cœur, le blog, ou En Amour, l'émission. Bien sûr, il y a le mot amour, bien sûr, il y a le mot cœur, mais c'est pas explicite quand je regarde. J'ai pas mal de comptes hein, qui me sont suggérés de gens qui sont des thérapeutes, des psychologues qui parlent de couple, etc. Et ils sont souvent. Leurs noms sont souvent un peu plus clairs que ceux que j'ai choisis il y a 5, 6, 7 ans maintenant. Donc je vais essayer de modifier un peu les noms pour simplement que ce soit peut-être un peu plus clair pour les gens qui découvrent le podcast. Voilà, si tu cherches podcast couple dans Spotify ou dans Apple Podcast, bah, voilà, que tu saches que ce podcast, il peut être fait pour toi éventuellement, qu'ils sont intéressants. Et se faire connaître. Donc aussi, c'est aussi un peu un appel, hein, si jamais tu trouves intéressant ce que je te partage. Et régulièrement, j'ai des emails de personnes qui me disent vraiment des mots touchants, mais ça reste, disons que ça reste rare. Ça reste rare malgré tout. Et du coup, ça pourrait vraiment m'aider à continuer sur cet élan du 300e podcast, du 400e podcast, d'avoir, voilà, de voir que ça bouge un peu au niveau de l'audience, que ça bouge un peu au niveau peut-être des échanges. Hein. T'es pas obligé de me contacter simplement pour un accompagnement et un échange, on va dire, quelque chose qui moyenne de l'argent derrière. On peut aussi simplement échanger, on peut simplement parler, c'est aussi possible, donc n'hésite pas à me contacter. Ce sera avec plaisir, voilà, d'avoir un peu plus d'interaction, un peu plus d'engagement dans les commentaires, sur les plateformes. C'est aussi pour ça que j'ai remis le podcast sur YouTube, même si YouTube a encore 140 podcasts à rattraper. Peut-être que je publierai celui-là directement pour juste voilà, prévenir. Moi, je ne sais pas, pour quelque chose de plus actuel, on va dire, pour YouTube, mais cherche un peu le contact avec la communauté de Graines de Cœur. Je vois sur les métriques, enfin, les logiciels qui permettent d'estimer l'audience, etc., qu'il y a des gens qui s'abonnent, qu'il y a des gens qui écoutent régulièrement, et a priori, c'est pas des choses très précises, hein, ces outils avec le GDPR en France et en Europe, etc., mais ça permet quand même de voir que c'est assez stable, que c'est plus ou moins les mêmes personnes, des mêmes tranches d'âge, avec les mêmes sexes qui écoutent, ce genre de choses. Donc, j'ai quand même le sentiment, en analysant ça, que oui, il y a une communauté, oui, peut-être qu'elle est de 10, 20, 30, 40, 50 personnes. Vous êtes une trentaine à écouter le podcast chaque jour, donc je ne sais pas qui découvre et ne revient pas et qui reste, mais voilà, il y a peut-être 50, 100 personnes, peut-être 20 qui sont vraiment des auditeurs, auditrices assidus. Donc ça me ferait plaisir aussi bah, de savoir un peu plus en détail c'est quoi vos questions, c'est quoi vos problèmes, qu'est-ce qui se passe dans vos couples là. Moi, je peux parler de ce que je rencontre dans mes lectures, dans mes apprentissages, les gens que j'accompagne, mais plus il y a d'échanges, entre guillemets, ben, qu'est-ce que je traverse? Qu'est-ce qui me questionne? C'est quoi ces interrogations? Même sans chercher nécessairement à avoir des réponses. Moi, je ne suis pas là pour te donner des réponses à tout. Je suis aussi là pour t'aider à te poser les bonnes questions ou des questions qui sont peut-être un petit peu meilleures, qui ont plus de chances de t'aider à avancer. C'est aussi ça, parfois, à l'accompagnement. C'est pas du coaching où je suis l'expert et je te dis quoi faire dans telle situation et j'ai toujours la réponse à tout. Non, malheureusement, c'est pas aussi simple que ça, le couple. Des fois, il va falloir se poser d'autres questions. Il va falloir oser regarder la vérité en face. Il va falloir aller ailleurs que là où on va naturellement. Pour pouvoir avancer sur ce chemin qu'est la relation à deux, sur ce qu'on vit de soi à soi, ce qu'on vit dans la relation, ce qu'on vit vis-à-vis de l'autre, et toutes ces choses-là. Donc peut-être une intro un peu chaotique, une intro non structurée que j'avais pas prévu de faire, mais en tout cas que je tenais à faire malgré tout. On va passer aux questions. On va se donner une bonne demi-heure à partir de maintenant, à peu près, donc on verra si pour que ce soit pas un épisode trop long. J'ai pas non plus, c'est pas la journée où j'ai le plus de temps devant moi, malheureusement, je suis déjà un jour de retard sur la publication de l'épisode. Donc on va se donner une grosse demi-heure, donc on va essayer de faire une émission de 40 minutes et on verra un peu où on en est, en espérant que j'ai fait plus qu'une ou deux questions. Et on verra, s'il faut, j'y reviendrai aux épisodes suivants. Encore une fois, si jamais tu as des questions, si jamais tu as juste envie de. Voilà, de me partager des choses sur ce que ce contenu t'a apporté, ce qu'il a apporté aux gens que tu connais, etc. N'hésite pas, voilà, ça peut me motiver, on va dire. Ça peut me motiver, ça peut faire du bien, et c'est toujours quelque chose d'apprécié, d'agréable, tout simplement. Donc la première question, elle est de Julie. Julie qui demande « Comment rester connecté à mon partenaire quand on est débordé par le quotidien, le travail, les enfants ?» et qu'on n'a plus le temps pour nous. Alors, y a plein de choses qui viennent en lisant les questions. C'est aussi pour ça que je veux essayer aussi d'être concis. Y a cette idée, des fois, de qu'est-ce qui est une priorité. Ne pas avoir le temps, souvent, ça implique que c'est... En fait, la vérité, entre guillemets, c'est que c'est pas une priorité. Alors, c'est pas une priorité parce que bah, y a les enfants, parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a des choses. Et du coup, il y a des choses qu'on va pas pouvoir enlever. Mais si le couple est une priorité, on va pouvoir trouver un peu de temps. Et ce temps, il faut le trouver, il faut le regarder à plusieurs moments de la journée. Moi, ce que j'aime bien, c'est avant que la journée commence. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas vous lever un quart d'heure plus tôt, par exemple? Est-ce que ce n'est pas possible de se lever un peu plus tôt pour avoir un moment d'échange, un câlin, simplement... On met juste le réveil un quart d'heure plus tôt, on reste au lit un quart d'heure, on somnole les bras dans les bras, on prend du temps un peu l'un pour l'autre, et peut-être qu'on prend un temps d'échange. Je sais plus c'est quel acteur qui disait qu'il se levait très tôt avec sa compagne, parce que justement ils étaient très occupés, et le matin leur truc à eux, c'était de lire en fait. Il y en a un qui lisait à l'autre un jour, et puis le lendemain c'est l'autre qui lisait son livre à l'autre, et ils se partageaient un moment de lecture, et comme c'était le moment, comme c'était quelque chose d'important pour eux, pour leur couple, pour leur intellect, pour ce qui les nourrit, eh ben, il s'est rendu compte qu'il fallait le mettre en début de journée, parce que s'il le garde pour la fin de journée, ça n'arrivera pas. Donc tout ce que tu vas garder pour la fin de journée, tout ce qui peut paraître plus important parce que c'est imposé, on va dire les enfants, t'as pas trop le choix, le travail, t'as pas trop le choix non plus, il y a ces choses-là qui s'imposent un peu plus à nous que le couple, eh ben, elles vont remplir l'espace, ces choses-là. Et du coup, s'occuper du couple, c'est compliqué. Donc est-ce que vous pouvez prendre du temps le matin? Est-ce que vous allez arriver à vous pouvez trouver des espaces dans une espèce de routine matinale, dans d'habitude matinale, pour ça. Après, pour des gens qui ont des enfants, y a peut-être le midi et deux aussi, c'est peut-être un moment, voilà, selon si vous mangez au boulot, vous mangez à la maison, les enfants mangent à l'école, il y a peut-être des semaines, il y a peut-être des jours de la semaine où c'est possible de faire l'effort de se retrouver, de passer un repas à deux, par exemple, ou de passer un repas pas ensemble, mais de s'appeler après le repas pendant une demi-heure, voilà, trouver des ajustements pour trouver des moments de connexion, que ce soit des moments de parole, des moments de câlin, Bien sûr, ça peut être des moments de... Il y a sûrement des conversations à avoir hein, dans une vie prenante avec des enfants, etc. Ça peut être des choses qui peuvent manquer dans cette situation-là. C'est des fois, c'est la sexualité aussi, qui est aussi un synonyme de besoin de connexion, besoin de se retrouver. Hein. C'est pas juste l'acte en lui-même. Il y a bien plus que ça derrière la sexualité. Et qui, des fois, bah, pour un partenaire, une partenaire, est vraiment, il y a vraiment cette idée de « je me sens aimé si on fait l'amour, je me sens connecté à toi si on fait l'amour ». Quand c'est pas partagé, bah, ça peut paraître un peu bizarre pour celui qui n'a pas cette dimension-là chez lui, on va dire, ou qui l'a moins, mais il peut y avoir ça. Donc des espaces de parole, donc l'appel à la pause repas, par exemple, des choses qu'on fait naturellement en début de relation. Si tu repenses à ce qui se passait en début de relation, même pour les gens qui ont des enfants et qui se remettent en couple, il y a du temps, hein. Il y a du temps pour le partenaire. Il y a des textos, il y a des SMS, il y a des messages vocaux, il y a des photos. Il y a des choses qui se passent quoi en début de relation, même pour les gens qui ont un travail et des enfants. Donc, c'est comment on ramène un peu cette énergie-là vers le couple quoi. Comment on trouve un peu cette énergie-là vers le couple. Et bien sûr, il y a la soirée. Pareil, est-ce qu'il y a des moments... ça dépend de l'âge des enfants, ça dépend bien sûr des horaires. Il y en a qui travaillent de nuit, qui part à 7h, et l'autre qui rentre à 8h, bah, c'est compliqué de se croiser. Toujours trouver, est-ce qu'il y a un espace avant d'aller se coucher, est-ce qu'il y a un espace qui permet quand même de créer du lien et de faire des choses qui vont nourrir la relation. Donc ça dépend toujours un peu de tes besoins, d'où t'en es aussi. Mais avant d'aller se coucher, s'il y a un peu d'énergie, un quart d'heure, 10 minutes, faire une routine de gratitude, partager 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude, et ça peut être très bien du bah, t'as pris soin des enfants justement aujourd'hui. T'es allé les chercher à l'école, tu les as amenés à leur activité, t'as cuisiné le repas, merci beaucoup mon chéri. Et puis le chéri qui dit bah merci, j'en sais rien pour qu'est-ce que t'as fait. Là, j'étais parti sur des trucs pratiques, puis je pensais déjà à autre chose, donc je suis un peu coupé dans mon élan. Mais tu vois, un partage de gratitude, donc une routine que je te partage hein, dans certains contenus, je t'en ai déjà parlé de cette routine de gratitude du soir, de partager à l'autre 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude et essayer d'inclure au moins une pour le couple. Ça peut être une routine, je t'en parle aussi parfois, de toucher, où on met un chrono, et pendant 10 minutes, il y en a un qui demande à recevoir le toucher qu'il veut, en fait, c'est celui qui reçoit, qui guide. Il dit, bah là, j'ai envie que tu poses tes mains, sans les bouger. Si tu bouges, ça m'agite. Donc sans les bouger, une main sur le ventre, une main sur le cœur, 2 mains sur le ventre, une main sur la tête, une main sur le ventre, ou sur les pieds, ou peu importe, où je veux un massage des pieds ce soir, je me sens vraiment tendu, est-ce que je peux recevoir un massage des pieds? Donc c'est celui qui demande, qui reçoit, qui demande, pardon. et qui est vraiment le lead dans tout ça. Il peut changer d'avis 17 fois en 10 minutes s'il faut. Ça peut être 5 minutes si vraiment il n'y a pas le temps. Et puis après, vous inversez les rôles. Et puis si vous avez un peu plus de temps, bah, prenez le temps de vous connecter, regardez-vous dans les yeux avant de commencer, passez. Et on est vraiment en silence hein, pendant cet échange de toucher. Il y en a un qui va être celui qui donne, peut-être il va vérifier quelque chose, il va dire est-ce que c'est comme ça que tu veux, etc. Mais on n'est pas en train de régler les problèmes de la journée, de parler de ces choses comme ça, on est dans le corps, on passe par le corps, on connecte les corps un peu en fait, avec cette routine-là, qui peut faire du bien cette pratique-là. Bien sûr, on inverse, et après, prendre un petit temps de débriefer, une minute ou deux chacun, pour juste dire, ok, qu'est-ce que j'ai ressenti? Ah ouais, ça m'a fait du bien, ça m'a relaxé, oh, je me suis senti connecté à toi, parce qu'on a pris le temps de se regarder les yeux dans les yeux, ça m'a fait du bien, j'ai retrouvé mon chéri, j'ai retrouvé ma chérie, etc. Donc, faire des pratiques, trouver des choses à faire le soir, je te donne un exemple qui est plus de... La gratitude, c'est plus quelque chose de mental, de parler, on va dire, même si tu peux le ressentir au niveau émotionnel, et l'autre qui passe plus par le corps. Ensuite... ce qui va être important, surtout pour des gens qui ont des vies un peu pleines, ça va être au-delà de... Je pars du plus petit au plus grand, entre guillemets. Donc je te parle de secondes, de minutes, d'heures que tu peux trouver ensemble au quotidien. Et après, on va voir trouver des espaces. Donc là, ça va être... est-ce qu'on peut prendre une soirée? Est-ce qu'on peut prendre une journée? Est-ce qu'on peut prendre un week-end? Est-ce qu'on peut prendre 2 heures, 3 heures? Je me rappellerai toujours, moi, genre, c'est peut-être un truc controversé, hein, mais cette famille qui disait à leurs enfants, sans expliquer ce que ça voulait dire, mais ils prenaient 2 ou 3 heures ensemble, ou 1 heure, je ne sais plus, peut-être 2 ou 3 heures, ça fait beaucoup, mais ils prenaient une demi-heure, 1 heure, en disant aux enfants, bah, écoutez, papa, maman, ils vont faire l'amour, sans être plus explicite que ça. Si jamais il y a une urgence, vous tapez à la porte, mais sinon, vous ne dérangez pas papa et maman. Et dans cette culture familiale, c'était quelque chose qui fonctionnait, voilà, il n'y avait pas de tabou autour de ça. Alors, ce n'est pas nécessairement ce que je te recommande, mais c'est pour te montrer ce qui est possible et ce que tu n'as pas pensé. Si tu dis, si le problème c'est faire l'amour, bah, sache qu'il y a des familles qui font ça. Est-ce que tu as envie de faire ça dans la tienne? Ça te regarde. Et ça, c'est à toi de voir, d'observer les inconforts que ça amène, etc. De t'expliquer ça. Bon, c'était pas des... Ils avaient 10 ans, 8 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. C'était pas non plus des très petits. Hein. Il y avait cette idée de, voilà, il y a du temps pour papa et maman. Papa et maman, ils ont un temps et tu peux donner un autre nom. Tu n'es pas obligé de dire papa et maman, ils vont faire l'amour. Tu peux dire papa et maman, ils passent du temps en amoureux, papa, maman, ils vont faire quelque chose. Ils avaient cet espace dans leur chambre, dans leur intimité, avec la porte verrouillée. Et vraiment, s'il y avait une urgence, bah, ils avaient vraiment formé, entre guillemets, éduqué les enfants à taper à la porte, à les appeler, et à les sortir de... Voilà, à des parents responsables, on va dire, à s'occuper. Ça peut bien sûr être avec une nounou, faire garder les enfants. Tu peux trouver un étudiant, une étudiante, quelqu'un de la famille, un ami. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Quand j'étais en Irlande, on était beaucoup d'expatriés. Qui dit expatrié, bah dire t'as pas ta famille autour de toi. Donc ce que les couples ils faisaient beaucoup, c'est qu'ils se trouvaient des groupes de jeunes parents et ils se gardaient les enfants les uns des autres pour qu'ils aient des soirées en amoureux. Donc il y avait un couple qui avait un enfant, l'autre qui avait un enfant, bah, il y a un couple qui gardait un des enfants et l'autre couple partait en soirée et inversement, et ça coûtait rien en fait, tu vois, c'était gratuit. Il y avait ces échanges entre guillemets de temps en temps. Et un rythme qui est bien, hein, un rythme qui est bien, c'est une fois par semaine pour une soirée, pour 2-3 heures ensemble. Minimum, j'ai envie de dire un mois, une fois par mois. Si tu n'arrives pas à faire une fois par mois, ça va être vraiment dur de traverser 3, 5, 10 ans d'éducation des enfants, des enfants qui grandissent avant qu'ils soient un peu plus autonomes, etc. Je dis 10 ans parce que bah, selon si tu en as plusieurs à la suite, bah, peut-être qu'il y aura toujours un petit, quoi, entre guillemets, derrière, quoi, même si le premier que tu as fait, bah, il va être un peu plus grand, etc. Donc, trouver ça, de se dire bah, une fois par mois, ça peut être bien. Après, il n'y a pas d'injonction de combien, ça dépend des besoins, ça dépend de ta relation. Moi, je sais que si avec ma chérie, on passait une soirée par mois ensemble, ce serait très compliqué pour nous. On a besoin de plus avec la qualité de relation qu'on veut. Et en même temps, bah, on n'a pas d'enfants en bas âge. On travaille tous les deux à la maison. On a fait des choix qui nous permettent de... on a eu la chance de faire des choix qui nous permettent de passer plus de temps ensemble. Et ça me paraît important. Donc voilà, je regarde l'heure. Je me dis, bon, OK, il va falloir passer à la question suivante bientôt. Donc... une fois par mois, idéalement, une fois par semaine, c'est bien. Donc voilà, selon les moyens, trouver un couple avec qui faire des échanges, une nounou, ce genre de choses. Et idéalement, une semaine par an, vraiment que tous les deux, quoi, si c'est possible. 3-4 jours, un week-end, si une semaine, c'est trop. Mais trouver vraiment des espaces où on ne va pas chez la belle-mère, etc. Non, si on part en vacances à deux, quoi, ça peut être dans le village d'à côté, mais c'est peut-être hors dehors de la maison, en dehors du faire casser la routine un peu. Et prendre du temps. Donc, c'est des choses, comprendre que c'est essentiel et que c'est la glue de ton couple. Et aussi, peut-être sans vouloir être culpabilisant, c'est vraiment pas mon intention. C'est juste rappeler que les enfants, ils apprennent ce que c'est la relation de couple en voyant leurs parents. Si tu regardes, et je parle pas qu'à Jules, je parle à tout le monde, si tu regardes comment tes parents étaient ensemble, ça explique beaucoup sur comment toi tu es en couple. Soit tu fais pareil, soit tu fais l'opposé, plus ou moins. C'est un peu le schéma avec les enfants, hein. C'est soit ils font comme papa, comme maman, soit ils prennent le contre-pied, parce que ça leur allait pas à eux. Donc on apprend à aimer, on apprend à être aimé dans notre foyer. Donc un foyer dans lequel il y a de l'amour, il y a de la tendresse, les parents se montrent qu'ils sont importants l'un pour l'autre parce qu'ils prennent cette soirée toutes les semaines, parce qu'ils vont en vacances ensemble. Ça ne veut pas dire que les enfants sont pas importants. Ça veut aussi dire la personne avec qui je partage ma vie, elle est aussi importante. Mon amoureux, mon amoureuse, mon mari, ma femme, etc. C'est des gens importants. C'est une personne importante pour moi. Donc on va le montrer. Les enfants, ils vont apprendre ça. Donc ça peut être aussi une motivation. On peut faire beaucoup de choses pour ces enfants. Des fois, c'est une des plus belles motivations. Plus grande motivation que moi j'ai vu dans j'ai pas d'enfant donc je l'ai pas expérimenté moi-même, mais dans mon entourage, dans ce que les gens sont proches à faire, dans les témoignages que j'ai écoutés, etc. Ce que les gens sont prêts à faire pour leurs enfants, il n'y a pas grand chose de plus puissant que ça. Donc peut-être pas se fouetter, pas se culpabiliser et vraiment pas l'utiliser comme ça, mais plus le prendre comme un boost, quoi. C'est comme tu veux perdre un peu de poids pour tes enfants, pour être en forme, pour aller faire des activités physiques avec eux, bah, te fouette pas parce que tu as pris quelques kilos, plus sers-toi de cette motivation-là pour dire, ok, je vais aller à la salle de sport, je vais faire attention à ce que je mange, je vais me former sur la nutrition, etc., etc. Pour sers-toi comme un fuel, quoi, comme quelque chose qui donne de l'élan. Donc voilà quelques pistes au quotidien, hebdomadairement, de manière annuelle. Si tu penses à ces trois échelles de temps, trouver des espaces, trouver et c'est simplement se rendre compte que si tu fais pas ça aussi et sans te culpabiliser toujours, c'est que tu vas forcément abîmer ta relation. Il y a des gens hein, qui, après 10 ans qui ont négligé la relation, qui l'ont complètement oublié, qui se retournent l'un vers l'autre et qui disent « Tu m'aimes toujours? Ouais. Toi, tu m'aimes toujours aussi? Ouais. Ok, on va y arriver. On va... Si tu négliges trop longtemps, c'est de plus en plus dur, quoi. Et il n'y a pas tout le monde qui arrive à repartir en arrière, même à se ressentir amoureux encore l'un de l'autre, etc. Donc, comprendre que c'est essentiel, ne serait-ce que, aussi, hein, pour le bien-être des enfants, bien sûr, on est dans un monde où... Il y a beaucoup d'enfants qui grandissent sans un papa, sans une maman, mais il y a quand même quelques signes qui montrent que ça peut aider un papa et une maman présents dans la vie d'un enfant, ou de maman, de papa, peu importe. Mais voilà, que ça peut aider, quoi, la présence de parents qui ont des rôles différents, qui représentent des choses différentes. Hein. Si tu te renseignes un peu, enfin, si tu as perdu ton père ou ta mère un peu jeune, et que tu regardes un peu du côté de la psychologie, de ce que ça implique. Il y a quand même des grandes tendances qui ressortent des personnes qui ont perdu leur papa ou leur maman jeune, et c'est un peu différent chez les filles et chez les garçons. Donc voilà, quelque chose d'important aussi à garder, encore une fois, pas pour se flageller, pas pour se culpabiliser, se dire ok, quel exemple j'ai envie de montrer à mes enfants de ce qu'est un couple en fait aussi, et de voir si ça peut être source de motivation pour prendre soin de la relation, pour montrer c'est quoi des adultes qui communiquent, des adultes responsables, des adultes qui s'aiment. Deuxième question, voilà, donc j'espère que ce sera utile pour la réponse de Julie, pour tout le monde. Deuxième question donc de Mathieu, je sens que je suis dans une relation où on évite les vrais sujets. Comment amener, pardon, plus de profondeur sans faire peur à l'autre? C'est vraiment, moi, l'une des raisons pour lesquelles le couple m'a intéressé, c'est vraiment cette profondeur. Des fois, je me rends compte à quel point on est des êtres humains qui ne savent pas être des êtres humains entre eux. Ça m'a choqué. Récemment, je t'avais parlé dans une émission qu'il y a mon papa qui est décédé il y a quelques... J'ai du mal à savoir quand maintenant, tu vois, 1er avril, donc 3 semaines. Et de me rendre compte, et même moi le premier, hein, encore une fois, sans juger les autres, à quel point on arrive à être déconnecté de notre humanité dans des scénarios. Et ça m'a vraiment frappé pour un enterrement avec la famille, etc. Se rendre compte à quel point, mais en fait... Wow, c'est difficile de me sentir, de recevoir l'humanité des autres et de donner mon humanité aux autres. Je sais pas comment on en est arrivé là en tant que société. Je saurais pas dire, c'est pas mon expertise, mais il y a un truc qui m'a paru profondément bizarre. Se dire, wow, on est tous là pour notre père, pour notre papa, et il y a des moments super touchants, il y a des moments très humains, et en même temps, il y a comme une distance, il y a comme un truc, quoi, il y a comme une pudeur. Donc très, très, quelque chose qui me passionne, on va dire, et qui m'intéresse et qui me questionne beaucoup, cette histoire de profondeur dans les relations, d'authenticité, d'humanité. Je te parle parfois qu'en fait, dans une relation, quand tu évites les vrais sujets, bah, il y a 1000 raisons pour ça. Hein. Est-ce que la qualité de la communication, elle est bonne? Est-ce que tu es avec quelqu'un qui est jugeant ou est-ce que toi tu es jugeant? Des fois, on veut pas partager ce qu'on a à dire parce que bah, nous, on se juge et on pense que l'autre va nous juger. Moi, ça a vraiment, et ça, je remercie mon ex-épouse pour ça énormément, où elle a vraiment aidé à vraiment m'aider à comprendre qu'en fait, il y a un monde dans lequel où on peut ne pas se juger et on peut accueillir ce qu'a à dire l'autre. Qu'il est la pire noirceur de l'autre, les trucs les plus horribles que j'ai en moi, que je pensais que j'ai les trucs les plus honteux, etc. Je pensais que je pourrais le dire à personne, que je devais me trimballer ça toute ma vie, etc. Des trucs. Vraiment la noirceur la plus noire de moi que je connais, entre guillemets. Bah, j'ai pu lui partager, j'ai pu m'ouvrir à elle, elle a pu l'accueillir. Mais pour que ce soit possible, et puis elle a pu le faire en retour, et c'était des moments pas toujours simples, mais c'était des moments très, très touchants, très profonds, quoi. Vraiment ce côté de. Ah ouais, j'ai ce démon-là aussi en moi. J'ai ce truc-là là, qui est moche, qui me plaît pas, qui me gêne, qui me crée de la honte, mais à un point inimaginable, etc. J'ai aussi ça. Bien sûr, j'ai mon côté lumière, j'ai ce qui est plus, ce qui me rend fier, ce que je apprécie chez moi. Il y a aussi toutes ces choses-là, toutes ces pensées, tout ce que j'ai fait, tous ces trucs qui sont là. Ok, ça peut paraître laid. Ça nous paraît laid en tout cas, et puis du coup on n'ose pas en parler. Donc il peut y avoir cette histoire de jugement, bien sûr, il peut y avoir cette histoire de. Un peu de honte, hein, j'ai honte de qui je suis, j'ai honte de ce que j'ai à dire. Donc ça peut être dans ce sens-là, ça peut être bien sûr dans la peur de faire peur ou de blesser l'autre. Et là, moi, ce que j'ai à dire, c'est pas à toi de décider ça, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est infantilisant. De considérer l'autre comme incapable. Je vais dire, ah, mais je le connais, je la connais, je sais qu'ils sont pas capables. C'est infantilisant. C'est des adultes, c'est des personnes matures, c'est des personnes qu'ont vécu, etc. Surtout voilà, si tu as un certain âge, on va dire. Quand tu es plus jeune, c'est peut-être compliqué, mais moi, j'essaie de pas infantiliser ma compagne. J'essaie vraiment de. Ça lui appartient, en fait. Moi, je vais essayer d'amener ce que j'ai à amener de manière la plus authentique, la plus douce, la plus bienveillante possible. Le moins chargé possible en émotions, d'une manière qui a moins de chances de déclencher ses blessures à elle, ses peurs à elle que je connais, etc. Je vais faire du mieux que je peux et m'appliquer pour vraiment amener ça d'une manière qui est du plus recevable pour elle, mais en même temps sans me cacher, sans me voiler, entre guillemets, ou en étant à moitié caché, ou sans me déguiser, etc. En étant autant honnête que possible. Et ne pas être dans cette démarche, hein, des fois où on se croit. On pense qu'on protège l'autre, quoi. Nous, on se protège soi, en fait. Ça se trouve, l'autre, il est tout à fait capable d'accueillir ça. Donc, il y a ces deux choses qui me viennent déjà. Après, il y a tout un pan, donc j'en ai parlé un peu au début, mais est-ce que tu sais communiquer? Et comment, il y a des épisodes où je parle un peu plus de communication, hein. Voilà, comment accueillir en bienveillance, sans jugement, encore une fois. Si ta copine ou ton copain il est venu te voir un jour, il t'a dit oh ouais, moi j'ai ce fantasme, machin, on va faire un truc, j'aimerais trop faire ça, jouer avec cette partie-là du corps, et puis toi ta réaction c'était ah mais c'est dégueulasse, t'es un pervers, t'es une pervers, c'est crado sans plus et tout, ah moi jamais de la vie. Si ta réaction c'est ça, bah faut pas s'étonner d'être dans une relation, si parfois t'as cette réaction-là, ou si tu pourrais avoir cette réaction-là, c'est pas étonnant d'être dans une relation où. Où on ne peut pas tout se dire. C'est parce que tu n'es pas capable de tout entendre, en fait. T'es pas capable d'accueillir sans juger. Et du coup, c'est vraiment ce travail-là interne. Il n'est jamais fini, ce travail, parce qu'il y a toujours des choses, il y a toujours des moments où on juge un peu, il y a toujours des moments de choses qui ne sont pas agréables, etc. Mais aller vers ce moins de jugement. Aller vers ce plus d'accueil. Dire, ok, ça, c'est pas trop mon truc. Je vais pas te juger comme mauvaise personne, comme personne dégueulasse, ou comme pervers, etc. C'est juste pas trop mon truc. Je vais t'écouter, vas-y, parle. Je vais trouver les ressources en moi pour que tu puisses déposer cette pépite, entre guillemets, ce truc intime à qui t'as dit à personne d'autre, ou t'en as parlé à quelques personnes, et c'est vraiment ton intimité, quoi. Je vais respecter et honorer ton intimité, ton partage, ton authenticité. Si moi, je veux être authentique, il faut que je puisse honorer, respecter. Encourager peut-être même l'authenticité de l'autre. Et il y a peut-être une dernière notion que je voulais t'amener, c'est cette idée de toi tu vas à un certain niveau de profondeur avec ton partage, tu t'envoies le message à l'autre de ça, c'est ok. Pour rester dans un exemple simple de la sexualité qui peut se passer en début de relation, parfois c'est tu découvres l'autre un peu sexuellement, on va dire. Tu fais l'amour quelquefois, etc. Tu te découvres, tu vois ce que l'autre aime, ce qu'il veut te parler de sexe, de trucs. Et, ah ben moi j'aime bien ci, j'aime bien ça, etc. Et tu vois, et plus tu fais ce truc-là, plus, si tu commences à lâcher un de tes gros fantasmes, qui est peut-être pas le truc le plus. Tu dis, ah, moi j'ai envie de faire un truc à trois, machin, ok, bon, c'est tout le monde presque quasiment ce fantasme-là. Je sais plus c'est quoi le pourcentage, mais le pourcentage de la population qui a le fantasme du truc à trois, c'est pas. Je sais plus, mais c'est énorme, quoi. Donc, un truc un peu plus personnel, quoi, un truc un peu différent, peut-être une scène très précise, un truc. Bah, en partageant ton fantasme à toi, tu vas autoriser l'autre, tu diras, bah ok, c'est ok de parler de fantasme avec lui, avec elle, etc. Si je te prends un autre exemple, c'est parler des ex, par exemple. Si dans la relation, t'arrives et tu commences à parler des ex, et puis tu en parles, t'es à l'aise avec ça, etc., bah tu vas communiquer à l'autre que c'est ok de parler des ex. Il y a des relations, on ne peut pas parler des ex. Il y a des relations, on ne peut pas parler de fantasmes. Il y a des relations, on ne peut pas parler d'argent, etc. Donc si tu es à l'aise avec l'argent et que tu arrives à en parler d'une manière, voilà, sans être. Comment dire? Sans forcer l'autre non plus, quoi, respecter aussi où l'autre il en est, mais tu vas pouvoir amener un niveau de profondeur, et tu le vois aussi dans tes amitiés, dans ta famille, il y a des endroits dans certaines relations où un jour tu t'es confié, ou l'autre s'est confié, et peu importe le sens, mais regarde ces relations-là où il y en a un qui a mis une certaine profondeur d'intimité, pour reprendre ton mot de profondeur, qui était ok désormais dans cette relation, ok, on peut parler de ça maintenant avec toi. On peut parler de ces trucs-là, on peut parler de ces projets pro, on peut parler de nos trucs qui font peur, on peut parler de ce que je traverse et de l'accompagnement que je suis en train de faire avec ma psychologue ou peu importe ou mon truc. C'est ok de parler de mes phobies ou de mes peurs ou de mes limitations ou des choses comme ça. Ok, dans cette relation, ça c'est ok. Et petit à petit, tu vas pouvoir aller de plus en plus en profondeur. Donc, soit il y a aussi, entre guillemets, tu te jettes et tu partages un gros truc, mais il y a un risque que ça explose, il y a un risque de rejet, il y a. Voilà, vigilant, quoi, ça dépend de la personne que tu as en face de toi. Sinon, c'est y aller graduellement et petit à petit, au fil du temps, aller vers plus de profondeur, plus d'intimité, plus d'authenticité. Ça me paraît vraiment important et je te parlais des relations et tout ça tout à l'heure, j'ai oublié un peu ce que je t'ai dit, mais cette idée de s'il y a un endroit pour moi où on devrait pouvoir faire ça, c'est le couple. La famille, ça peut-être que parce que c'est comme ça que moi je le vis au niveau de la famille, mais ça me paraît plus compliqué. Les amis, ça me paraît plus compliqué. Je trouve que le couple, c'est l'endroit le plus à même de vivre ça. Parce que tu partages déjà tellement avec la personne au quotidien. Tes amis, ils vont pas se coucher avec toi le soir. Ta famille, elle va pas se coucher avec toi le soir. Tu sais, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens, quoi. Il y a des couples qui te paraissent tellement heureux et tout. Et puis, le soir, ils s'engueulent. Ça fait des mois qu'ils n'ont plus fait l'amour. Ça fait des mois qu'ils se parlent plus. Qu'ils se font la gueule. Ils sont point sur le point de se séparer. Quand tu les vois au bar, au restaurant ensemble, ça a l'air du couple parfait. Il y en a plein des couples comme ça. Donc, t'es pas. Tu vois, quand t'es ami, quand t'es proche, quand t'es pas dans l'intimité. Tu peux l'être à un certain niveau, mais. Il y a vraiment quelque chose dans le couple qui est différent, quoi. On vit ensemble, on partage le quotidien ensemble, on partage tellement de choses ensemble, donc pourquoi pas être l'endroit où la profondeur, elle est possible. Moi, c'est mon invitation, c'est pour ça que je fais ce podcast, c'est pour ça que j'ai fait le blog, c'est pour ça que je fais les accompagnements. Donc, voilà, j'espère que ces quelques pistes te donnent un peu de. Voilà, quelque chose à explorer, peut-être quelques pistes de réflexion. Donc, question suivante, Sophie. Est-ce normal d'avoir parfois moins de désir sexuel pour son partenaire quand on est ensemble depuis longtemps? Et ça, c'est une question qui pose, qui revient, on va dire, régulièrement. C'est une problématique du coup bien connue, et la réponse est bien sûr oui. Je saurais pas te citer les études de tête, mais en gros, l'attraction naturelle et chimique, ça va jusqu'à 3 ans maximum, et ça dépend des gens. Hein. Il y a des couples, ça passe beaucoup plus vite, mais c'est un peu cette euphorie du début de relation, les papillons dans le ventre, l'envie de faire l'amour tout le temps, etc. Pour la majorité des gens, ça peut durer jusqu'à 3 ans. Il y a des gens pour qui ça passe en 6 mois, d'autres pour qui ça passe en 1 an et demi, etc. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau de la chimie de ton corps qui t'aident en début de relation à créer du lien, à créer de l'excitation, à créer du désir. Il peut y avoir plein de jeux aussi hein, psychologiques hein, qui rentrent là-dedans. C'est ce que c'est de la séduction, la sexualité, est-ce que c'est du pouvoir, du contrôle Il peut y avoir plein de trucs qui font qu'on utilise la sexualité pour créer quelque chose, un climat dans la relation. Et après, quand on se sent bien, ben, on n'a plus besoin de ça. Et après, donc il y a le temps qui passe, on va dire, qui va naturellement, dans la majorité des relations, si ce n'est pour quasi tout le monde, va naturellement créer une phase de moins de désir. Voilà, ça tu sais que c'est normal, il n'y a pas trop à s'inquiéter là-dessus. C'était ta question, donc voilà, je pourrais aussi m'arrêter là. Pour te donner peut-être un peu plus de pistes, après, est-ce qu'il y a des causes à ça? Est-ce que c'est juste le temps qui passe Ou est-ce que c'est aussi vous qui avez accumulé des maladresses? Vous n'avez pas les mêmes schémas érotiques? Je t'invite à taper podcast en amour schéma érotique pour retrouver l'épisode où j'en parle. Et du coup, vous ne parlez pas le même langage sexuellement, en fait, entre guillemets. Il y en a un qui parle d'une manière sexuelle, enfin, qui a des besoins ou des envies sexuelles qui sont vraiment différentes de l'autre. Et du coup, bah, au début, parce qu'il y avait de la libido qui était débordante, ces choses-là, elles se gommaient un peu. Et puis. Mais peut-être qu'il y en a un des deux qui s'est effacé aussi dans sa sexualité. On a fait plus la sexualité de l'autre, qui était celle la plus dominante, la plus intense, la plus celui qui était le plus à l'aise à en parler ou celle qui était la plus à l'aise à en parler. Et du coup, il y a une des sexualités qui a été un peu mise de côté parce que, bah, et puis, tu t'imagines, après 3, 4, 5, 10 ans de vie commune, si tu as connu, vous n'avez jamais trop parlé de ça, vous avez toujours fait l'amour, ça s'est bien passé pendant 2, 3 ans, et puis d'un coup, ça va moins bien, il y a moins de désir, c'est moins souvent. C'est difficile pour la personne qui n'a pas cette perte de désir autant que l'autre de se remettre en question, parce que pour lui ou pour elle, ben, ça s'est bien passé pendant 3 ans, les fois où ils ont lancé le truc, on va dire, ça s'est bien passé. Les rapports en eux, souvent, sont, enfin, je te le souhaite à tous, que s'ils sont bien passés, etc. Il y a eu du plaisir, il y a eu des orgasmes, il y a eu des échanges mutuels, il n'y a pas eu qu'un partenaire qui prend et qui sert, on va dire, et qui prend un orgasme, qui n'en donne pas à l'autre. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas ça dans la relation. Mais ça peut être dur de se remettre en question quand tout ce qu'on a connu de la relation, c'est ce qu'on a connu, en fait. Et en fait, il y avait peut-être autre chose qui manquait, qui était un peu mis de côté. Donc, à voir s'il n'y a pas un peu de ça. S'il n'y a pas un peu de ça, Voilà, c'est une des sexualités qui a été mise de côté. Ça peut être aussi simplement un peu de lassitude. Hein. Des fois, on fait l'amour toujours de la même manière. Et des fois, il y a besoin de changer un peu. Alors, il n'y a pas besoin d'acheter 17 000 sextoys et d'aller dans un club BDSM et de partir faire de l'échangisme. Bien sûr, ça peut être une solution, toutes ces les jouets, avoir des pratiques sexuelles différentes, etc. Ça peut remettre du piment. Voilà, les jouets, ça va. Bon, après, l'échangisme et tout ça, c'est des choses un peu plus casse-gueule quand même. Hein, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut, c'est des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Il y en a qui considèrent ouvrir la relation dans ces moments-là pour raviver le désir. Le problème de quand tu ouvres la relation, que tu vas vers l'échangisme, ce genre de choses, c'est ouais, tu vas peut-être raviver le désir, ton désir, ton feu intérieur, etc. Mais s'il y a des choses qui étaient dans la relation, qui est empêché la sexualité, comme je te dis, une sexualité qui a été un peu oubliée, qu'on n'a pas vraiment explorée, qui est un peu endormie, parce que bah, finalement, elle n'a pas eu sa place pendant toutes ces années. S'il y a des choses, s'il y a eu des maladresses dans la sexualité, des douleurs, des gestes, des choses qui n'étaient pas graves, hein, on n'est pas dans de l'attouchement, on n'est pas dans des choses graves, mais qui font, tu vois, plein de petits gestes répétés, des manières de faire l'amour, des manières de qui ont fait mal, surtout les femmes, hein, qui peuvent avoir des douleurs pendant l'acte, beaucoup plus que l'homme, et il peut y avoir un peu ce refermement, quoi, au bout d'un moment, parce que c'est globalement très bien, et en même temps, il y a eu plein de petites maladresses. Et ces petites maladresses, le corps, il se protège un peu, où il dit, bah, voilà, on n'a pas osé dire, parce qu'on a oublié ce qu'on a eu mal sur le coup, et puis après, on a joui, et puis ci, et puis ça, puis il s'est passé plein de trucs, on a pleuré, du coup on l'a pas dit, et puis on n'y repense jamais, et puis on refait l'amour, et puis ça revient, et puis on peut accumuler ces petites choses, quoi, hein, de choses qui se passent pas bien dans la sexualité, ou quelqu'un qui est trop direct, quoi, qui fait pas assez de préliminaires, ou quelqu'un qui en fait beaucoup trop et on n'en peut plus, ou peu importe, quoi. Et ces accumulations, donc, regardez un peu ce qui se joue et parlez, quoi, parlez de ce que toi tu vis dans la sexualité, écoutez ce que l'autre y vit dans la sexualité, prendre partir des schémas érotiques, ça peut être un bon début, et de regarder, ok, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas. J'avais fait un épisode aussi sur le débrief après la sexualité, peut-être une nouvelle chose, quoi, à faire, c'est-à-dire on va faire l'amour et on va prendre le temps de parler. Alors j'ai tapé le micro, j'espère que ça allait au niveau du son, désolé pour tes oreilles, et prendre le temps de se rendre compte de ouais, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me plaisait pas, qu'est-ce qui était un turn-on, donc quelque chose d'excitant, qu'est-ce qui était un turn-off, quelque chose qui m'a justement, à l'inverse, qui m'a coupé l'envie un peu, et comprendre au fur et à mesure. C'est quoi, en fait, peut-être qu'il y a plein de choses qui m'excitent pas dans notre sexualité, ou qui ont tendance à plutôt à l'inverse que m'exciter, qui ont plutôt tendance à me couper un peu l'envie, et du coup, bah, en fait, je sais que ça va arriver parce qu'on le fait à chaque fois, et du coup, bah, j'ai plus trop envie de faire l'amour, tout simplement, parce que. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là à regarder. Éventuellement, ce qui peut être intéressant, c'est, et on revient un peu à la première question, c'est prendre le temps, le mettre dans l'agenda, et de se dire, bah, c'est important la sexualité dans un couple, pour beaucoup de couples. Bien sûr, il y a des couples pour lesquels ça l'est moins. Et si pour les deux individus c'est quelque chose qui n'est pas important et que ça ne cause pas de problème dans la relation, vous ne vous forcez pas non plus, hein, ce n'est pas une injonction à faire l'amour. Et en même temps, pour la majorité d'entre nous, de mon expérience quand même, c'est au moins important pour un des partenaires. Et à partir du moment où c'est important pour un des partenaires, ça va causer des problèmes. Et s'il n'y a pas quelque chose qui est nourrissant dans la sexualité dans le couple, Ben malheureusement, souvent, la solution que trouve l'un des partenaires, c'est la tromperie. C'est trouver quelqu'un d'autre avec qui vivre ça, consciemment, inconsciemment, proactivement ou juste par chance, entre guillemets, ou malchance. Je sais pas c'est quoi le bon mot, ça dépend de la situation peut-être, mais cette rencontre, cette personne, ce truc qui arrive dans la vie où il y a cette opportunité, et du coup, ben, la personne va prendre la porte parce que elle dit, ben, de toute façon, dans ma relation, c'est fini, quoi. C'est quelque chose qu'on fait plus, donc ben, si je le fais pas dans ma relation, pourquoi j'aurais pas le droit de le faire ailleurs? Si vous êtes mis d'accord sur ça, il n'y a pas de problème, hein, mais si vous n'êtes pas mis d'accord sur ça, que c'est une décision unilatérale, on ne sait pas comment l'autre va le prendre, quoi. Donc c'est un peu délicat. Donc prendre des moments, mettre des moments dans l'agenda, et avoir une... Il y aura tellement plus de choses à dire, je ne vais pas faire un podcast sexo là-dessus. Je prendrai qu'une question de plus, ça fait déjà 40 minutes, donc je ferai pardon, une enrab. Parce que 3, ça fait pas beaucoup, malgré tout. C'est regarder comment on va vers le faire l'amour, quoi. Une nana anglophone, j'ai même pas fait gaffe à son nom, j'ai pas mal de ses reels en ce moment sur Instagram et sur Facebook qui parlent de cette idée de. Alors, c'est quelque chose que j'ai pas creusé, je vais donner ses pourcentages à elle, mais je sais pas, j'ai pas sourcé ces informations, donc à prendre avec une petite pincée de sel. C'est que chez les femmes, il y a 85% des femmes, d'après elle, donc c'est une sexologue, psychologue, j'ai oublié exactement, qui ont un désir, qu'on va dire, qui est responsive, qui est en réponse à des certaines stimulations ou qui est en réponse à une certaine situation. Donc, moi, de mon expérience, hein, j'ai pas eu 2000 partenaires sexuels, donc je pourrais pas te confirmer le pourcentage exactement, mais de mon expérience, c'est relativement vrai de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de femmes qui sont pas nécessairement une très forte libido, qui vont être les initiatrices sexuelles, qui vont dire bah vas-y viens on baise quoi entre guillemets. Bien sûr il y a des femmes et j'ai une amie c'était comme ça, c'était marrant de les voir avec son chéri ou c'était lui qui était plutôt le mec qui avait besoin de préliminaires, d'échauffement on va dire. Il avait besoin que ça ralentisse etc. Et c'était elle qui était très directe et qui était là mais moi enfin. Elle se voyait comme avec une sexualité d'homme, entre guillemets, c'est pas, ça n'a pas à être ça, c'est voilà, c'est sa manière. Donc, a priori, ce serait plutôt 15% des femmes qui ont vraiment ce désir spontané, un peu comme les mecs ont tendance à avoir, pour caricaturer, et 85% des femmes qui auraient besoin de passer par d'autres étapes, de préparer un peu les choses. Donc, c'est peut-être aussi ça qui a été maladroit, qui a été perdu, quand t'as plus envie de faire l'amour, c'est que bah, peut-être qu'on va trop vite, et peut-être qu'on. Elle, pour donner un de ses conseils précis, que je trouve tout à fait pertinent, elle a arrêté de dire oui ou non à faire l'amour à son mari et ce qu'elle conseille à ses clientes. Elle dit puis non, j'ai pas envie, oui, j'ai envie. Elle dit bah, voyons voir, voyons voir, voyons voir si on va commencer un peu, on va faire des préliminaires toutes douces, on va y aller tranquillement et on va voir si mon désir il est là ou pas, en fait, tout simplement. Parce que comme ça, de but en blanc, je sais pas dire, et elle fait partie de ces 80% de femmes, d'après son travail à elle, et de voilà. Du moins, ouais, j'imagine que c'est une américaine, donc c'est des stats au moins américaines. Et j'ai trouvé que c'était une approche très, très intéressante, en fait. Donc, pas beaucoup de recul sur ça, c'est des choses que j'ai découvert récemment, mais peut-être qui t'aideront. Et voilà, dire bah, peut-être, on va voir. Peut-être que je te dirai oui, peut-être que je te dirai non plus tard. On va dans la chambre à coucher, on va se prendre une douche ensemble, et je vais voir si mon désir est là ou pas. Et en fait, le résultat de ça, c'est que le désir, il est souvent là, il n'est pas là systématiquement, mais il est souvent là, s'il y a eu ces étapes d'avant. Donc ça peut être une solution à faire moins l'amour et à se reconnecter à ça. Je regarde les deux, trois dernières questions, j'en choisis une. Parce qu'elles sont toutes intéressantes, j'essaie juste de voir s'il y en a une que j'ai pas. Il y a des choses que j'ai à dire que j'ai pas trop couvert aujourd'hui. Peut-être une question un peu rapide. J'ai tendance à m'écraser pour éviter les conflits, mais je sens, du coup, je me perds dans la relation. Comment poser mes limites sans blesser l'autre? Je vais peut-être un peu étendre ça à d'autres choses. Moi, je l'ai vécu dans ma relation précédente avec mon ex-épouse qui avait des tendances colériques. Comme elle dirait merci papa, elle a pris ça de son père. Et bon, elle en avait conscience, elle travaillait beaucoup dessus, etc. Donc, il y a vraiment. Je me serais pas, enfin moi je me serais pas engagé dans une relation avec quelqu'un de colérique qui ne fait pas un travail sur soi parce que moi je suis un peu comme la personne hein, qui vient de faire ce partage quoi, qui a un peu tendance à m'écraser, à me laisser marcher sur les pieds. Donc t'imagines que ça peut créer une relation toxique et abusive en fait, quelqu'un de colérique et quelqu'un qui s'écrase parce que bah, du coup bah, t'encaisses, tu prends les coups jusqu'au jour où toi tu t'exploses et puis peut-être que vous vous tapez dessus, peut-être que vous criez dessus, peut-être que vous cassez la vaisselle. Enfin voilà, c'est pas des choses, c'est pas des dynamiques qui sont très très bonnes. Donc moi mon travail c'était de moi me laisser écraser, mon travail que j'ai fait personnellement, et elle son travail c'était d'apprendre à gérer sa colère, et on a appris à faire ça ensemble. Et si je t'en parle, c'est notamment avec cette histoire de poser les limites sans blesser l'autre. Donc comprendre que moi, je suis quelqu'un qui a peur du conflit assez naturellement. Je suis confronté à ça. J'étais manager au travail, dans mes relations. J'ai tendance à pas être à l'aise avec le conflit. Donc, je pense que je comprends bien ce que tu ressens, même si peut-être qu'on ressent les choses de manière assez différente. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui aime le conflit, qui va au conflit facilement, en tout cas. Donc, on est sûrement un peu similaire à cet endroit-là. Quoi dire sur le conflit? Déjà, comprendre que je te parle souvent de cet inconfort d'aujourd'hui pour le confort de demain. Donc, aller vers le conflit, c'est... Et conflit, ça ne veut pas dire s'engueuler. Moi, je vis du conflit dans ma relation où on n'est pas d'accord, mais on ne s'engueule pas pour autant. Alors, j'ai quelqu'un qui... Ma chérie est prof de yoga, voilà, elle est assez mature, on a tous les deux fait un certain chemin personnel, donc... On n'en arrive plus là, j'imagine que dans des versions plus jeunes de nous, avant notre travail personnel, peut-être qu'on s'engueulerait parfois. Du coup, quand nos désaccords sont plutôt assez doux, sont plutôt assez marqués, j'ai des amis qui faisaient de la gestalt thérapie, alors je connais pas trop la gestalt, mais qui disaient que si les couples s'engueulent pas, entre guillemets, c'est les pires couples qu'ils voient en thérapie, parce que c'est là où il y a le plus de problèmes, entre guillemets, parce qu'il n'y a rien qui est discuté, au moins les couples qui s'engueulent, au moins ils parlent des problèmes. C'était un peu ça leur raisonnement. Donc comprendre que l'inconfort d'aujourd'hui, donc parler ce qui est gênant, hein, bon, ce qui peut créer des conflits, ça va être inconfortable, mais ça va créer de la paix, ça va créer de l'amour, ça va créer de la bienveillance, ça va créer une relation apaisée plus tard. Et ça me paraît important, et moi c'est un peu mon moteur quand j'ai besoin d'aller vers... De dire quelque chose, hein, comme on parlait tout à l'heure dans une question précédente de profondeur, quand j'ai besoin d'aller vers la profondeur et de partager ma profondeur à moi, ou quand il y a des choses qui me paraissent conflictuelles, je me rappelle que bah, si je ne le fais pas bientôt ou tout de suite, je vais cultiver de la distance avec ma compagne et je vais me sentir plus loin d'elle. Il y a plus de moments où je vais me sentir seul, isolé, déconnecté d'elle, parce que la seule chose que j'aurai en tête quand je serai avec elle, ce sera ces histoires de conflits, ces histoires de choses que je voulais lui partager. Et j'ai pas de place pour l'aimer, j'ai pas de place pour lui parler, j'ai pas de place pour lui sourire, j'ai pas de place pour l'écouter, j'ai pas de place pour lui faire l'amour. Je suis pris dans mes non-dits, dans ce que je cache en fait. Et ça pourrit la relation, entre guillemets. Donc comprendre que ça. Bah, ça ne te sert pas en fait. Donc déjà, c'est déjà une bonne chose d'avoir cette prise de conscience. Ensuite, comment me poser des limites? Ça dépend vraiment du contexte, mais moi, ce que j'avais appris hein, de ma psy à l'époque, et que j'avais trouvé qui marchait bien, c'est faire comme avec un enfant, entre guillemets. Alors moi, c'était par rapport à quelqu'un de colérique, mais c'était vraiment d'en parler au préalable. Donc de se mettre d'accord avec ma partenaire, avec mon ex-épouse, on s'était mis d'accord sur OK, elle est colérique. Et ce qui la rend encore plus en colère, c'est ma non, c'est elle utilise la colère pour avoir une réaction de ma part, parce qu'elle se sent impuissante. Alors je sais pas si tu es quelqu'un de colérique, hein, mais je te prends un exemple, parce que des fois on comprend pas la colère. Donc elle se sentait impuissante. Donc la solution qu'elle a trouvée à l'impuissance, elle n'arrive pas à influencer la relation, elle n'arrive pas à influencer ce qu'on fait, elle n'arrive pas à influencer ce qu'on vit. Il y a un truc qu'elle n'arrive pas et qu'elle a besoin de moi pour le faire ou etc. ou qu'on le fasse ensemble. Et ça marche pas, je suis au travail, je suis dans mon truc à moi, je suis dans ma bulle, peu importe. Donc elle, sa solution, c'est la colère pour essayer de reprendre de la puissance. Donc moi déjà, je peux comprendre que sa colère, c'est aussi une vulnérabilité. C'est pas juste... parce qu'elle sait pas faire autrement, en fait. Elle est impuissante face à une situation, et la seule solution qu'elle a trouvée, c'est la colère. Donc elle est dans une vulnérabilité extrême, parce que elle est prête à tout péter pour avoir ce qu'elle veut. Donc, je veux bien que tu comprennes le désespoir de cette position-là. Et peut-être que c'est pas quelqu'un qui est colérique dans ta vie, mais il y a ça derrière la colère. Il y a du désespoir, quoi. Elle est désespérée de la situation. Elle a besoin que ça change. Elle sait pas faire autrement. Donc, du coup, je t'invite à vraiment observer la vulnérabilité chez quelqu'un de colérique, et pas juste les caser dans des méchants ou dans... Moi, j'avais beaucoup de respect et de tendresse pour ses colères aussi. Même s'il fallait qu'on apprenne à les gérer pour pas que ça me fasse mal à moi et pas que ça lui fasse mal à elle. Et je vais arriver aux limites dans un instant. Donc, ok, donc il y a ça. Donc, déjà, je comprends sa situation. On en a parlé de Moi, si j'ai une réaction, ça l'aide à pas être colérique. Donc voilà, à toi de voir dans ton cas ce qui aiderait ta partenaire, par exemple, à moins t'écraser, etc. Donc moi, ma solution, c'est de mettre une barrière, c'est d'avoir une réaction. Donc ma réaction, et je dis comme un enfant, entre guillemets, c'est-à-dire de dire, bah, écoute, je t'aime, je vais faire ce qu'on a dit qu'on ferait, c'est-à-dire que je te dis que c'est pas OK de me parler comme ça, je sens qu'il y a le ton qui monte, c'est pas juste de me parler comme ça, c'est pas respectueux de me parler comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la salle d'à côté et on continuera cette conversation quand tu te seras calmé. Donc là, il y a plusieurs choses qui sont importantes. Il y a le je t'aime. C'est pas je te déteste, c'est pas je t'en veux, c'est pas t'es une méchante. Non, c'est je t'aime. Je fais ça parce que je t'aime. Je fais ça parce que je veux préserver notre amour. Je veux préserver notre relation. Je fais ça parce que je veux aussi te préserver, t'éviter d'aller me préserver moi, d'aller vers de m'écraser, de me sentir écrasé, de pas être bien. Et donc de toi, en m'écrasant, je te pousse, entre guillemets, à devenir encore plus colérique, à t'énerver davantage. Et du coup, toi, tu vas avoir des regrets, parce que tu vas dire des choses que tu voulais pas dire. Tu vas avoir des sens. Moi, je connais pas trop la colère. Mais moi, on en a beaucoup parlé, etc. Je suis pas quelqu'un qui va facilement vers la colère. J'ai plutôt un travail à faire pour aller vers la colère et me connecter à ma colère que l'autre chose. Mais elle le vivait pas bien d'être colérique. Elle se sentait pas bien pendant des jours après. Des fois, quand elle disait des choses qu'elle regrette, etc. Il y a des fois où elle a été assez violente dans sa colère, surtout au début de relation, avant qu'on mette ses barrières en place, avant qu'on mette ses limites en place, qu'on apprenne à naviguer ça. Elle me dit, mais elle bouillonne pendant 3 jours, donc elle est pas bien pendant 3 jours. Elle explose 1 ou 2 jours de colère et après, elle se sent pas bien pendant une semaine. Elle se fouette, elle s'en veut. Ah, mais je suis une mauvaise compagne, et puis ci, puis ça, et puis je suis pas une bonne personne, et puis t'as vu comment je lui ai parlé, c'est un mec bien. Et donc elle, c'est 10 jours de misère, en fait, entre guillemets, pour elle, d'aller vers la colère. Donc moi, déjà, aussi, me rendre compte que de trouver ma ressource et ma force, de dire, si j'arrive à mettre des limites, si j'arrive à casser ce schéma de je m'écrase, elle se met en colère, ou je m'écrase, on se dispute, et comprendre que c'est des jours de moi, comme je me suis écrasé, je me sens pas bien, et elle aussi, donc je vais nous économiser tout ça, en fait. Si on trouve une solution, tous les deux, ou si c'est moi qui trouve la solution, je vais nous économiser toute cette merde, entre guillemets. Donc voilà, la limite, elle peut être mise assez clairement. Moi, je te conseille toujours le je t'aime ou je tiens à toi ou je fais ça parce que c'est important pour moi, sans culpabiliser l'autre. Ah, moi, je le fais parce que c'est important pour moi, mais toi, t'es pas capable. Non, non, pas du tout. On n'est vraiment pas dans le conflit. On est OK, je t'aime. Tu te rappelles, on en a discuté. Dans ces cas-là, on a dit qu'on ferait ça, donc je vais le faire. Je vais me tenir à nos engagements. On a eu un engagement, on a eu une conversation préalable, on s'est mis d'accord sur quand il y a ça, je vais mettre une barrière parce que c'est mieux pour nous. C'est pas juste pour mieux pour moi, c'est mieux pour nous. C'est-à-dire que tu vas éviter à l'autre de vivre des choses qui sont aussi inconfortables, de reproches, de mépris, de colère, etc. Donc je t'aime, je fais ce qu'on va faire, et puis c'est pas OK de me parler comme ça, j'accepte pas que tu me parles comme ça. Quelque chose, pas de méchant, mais quelque chose de ferme, il faut quand même mettre de la fermeté. Et en fait, moi, mon expérience personnelle dans ces cas-là, hein, c'est que plus j'ai été juste avec ça, avec quelque chose de ferme quand même, plus c'était facile pour elle de faire, ok, il y a du répondant, il y a un mec en face de moi, dans son cas, parce que c'était elle, la nana, donc il y a du répondant, ce qu'elle voulait. J'étais dans ma position, je me faisais pas juste marcher dessus, quoi, je pouvais pas me faire bully, quoi, entre guillemets, je pouvais pas me faire brutaliser. Et du coup, elle, ça l'a calmée, ça lui a amené de la paix, et alors qu'avant, ça nous prenait une semaine, j'exagère un peu, on n'a jamais pris une semaine, mais 3-4 jours pour retourner des fois dans les pires moments, pour retourner vers la communication, démêler la pelote de laine et comprendre ce qui s'est passé, puis trouver des solutions et faire avancer les choses. Là, en 3 minutes, c'est fait, quoi. Je sens qu'il y a le ton qui monte chez elle, je sens qu'elle s'énerve. Il y a un monde dans lequel aussi où elle est capable de sentir ça et d'arrêter le processus en disant, bah vas-y, c'est moi qui vais partir de la salle parce que je sens que je bouillonne et ok. Et je ne veux pas te crier dessus, je ne veux pas m'énerver, je ne veux pas rentrer en colère. Donc il y a elle qui peut être proactive et il y a moi qui peut être proactif en disant, OK, je vois ce qui se passe, je connais notre danse, je sais ce qu'on va faire si j'interviens pas, entre guillemets. Donc j'ai la présence et le courage d'intervenir cette fois. Peut-être que la fois d'après, ce sera toi, mais cette fois, j'ai ça. Et du coup, je vais le faire. Je t'aime, je mets la barrière et c'est moi qui pars dans ce cas-là. Si c'est moi qui mets la barrière, etc., je ne lui demande pas, bah, est-ce que tu peux partir, est-ce que tu peux sortir de la pièce? Non. Je la laisse dans son univers, etc. Et puis, si elle me dit, bah, en fait, j'aimerais aller dans la cuisine, est-ce que tu peux aller dans la chambre? Voilà, t'as juste, hein, faut pas être non plus têtu, hein, là-dessus, mais c'est plus facile. Tu vois, c'est pas une punition. C'est pas une punition de t'as pas été bien, va-t'en et laisse-moi tranquille. Non, on n'est pas là-dedans. Ok, je mets la limite et je te laisse de l'espace pour te calmer, et après on viendra finir cette conversation, parce que c'est très important de finir cette conversation. Donc voilà pour aujourd'hui, j'avais une dizaine de questions, j'en ai fait... Excuse-moi. J'ai le temps pour 4, donc je ferai sûrement l'épisode prochain à partir des questions qui n'ont pas été vues. Quoi dire de plus? Ben vraiment, ouais, un peu besoin de soutien, on va dire, ou d'un élan, quoi. Après 200 épisodes, encore une fois, c'est beaucoup, hein, 200 épisodes, je sais pas si tu te rends compte. Moi, je m'en rends compte. Et voilà, un petit coucou, un petit hello, un petit partage, quelque chose qui bouge un peu au niveau du podcast, ça me ferait plaisir. Moi, ça dépend pas que de toi, hein, c'est aussi ma responsabilité d'arriver à faire ce qu'il faut pour promouvoir le podcast, pour peut-être changer le format, etc. Donc, je vais aussi regarder un peu de mon côté tout ça. Pour ça, je te parlais du changement de nom. Mais si toi, tu sens que c'est important ce que je fais, que tu as envie de mettre un petit coup de pouce, bah, n'hésite pas à t'abonner, très important sur les plateformes. Tu peux aller sur YouTube, tu peux aller sur Spotify, tu peux aller sur Apple Podcast et puis t'abonner un peu partout. Tu peux partager, tu peux liker, tu peux mettre des étoiles, etc. Mettre des commentaires. Et ces petites choses, hein, ça peut te paraître rien, ça prend 2 minutes, mais ça change tout en fait. Si vous êtes beaucoup à le faire, ou quelques-uns à le faire, ça fait vraiment effet boule de neige et voilà. Et peut-être que c'est mon contenu qui n'est pas assez bon, peut-être que c'est ma manière de faire qui est pas la bonne, et si c'est ça, c'est comme ça, et ça m'appartient par contre, ça m'appartient, ce sera à moi de régler ce souci-là. Mais en tout cas, je suis preneur d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de soutien, pour l'occasion de cet épisode 200, pour faire partager le message, que je sais que ça parle à pas mal de gens, enfin voilà, les amis, les proches, les gens qui écoutent, j'ai plus de retours positifs, j'ai quasiment que des retours positifs des gens qui m'ont contacté, que ce soit voilà, des gens, des auditeurs, des auditrices, des gens. Donc voilà, je continue, je persévère, et en même temps besoin d'un petit peu de soutien, et je vais laisser là pour cet épisode-là. On se voit la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça mercredi, mais c'est voilà, mercredi c'est compliqué en ce moment. Donc peut-être que je ferai le podcast jeudi. On va voir, à voir en tout cas. Je te remercie de ton écoute, je te dis à la semaine prochaine, à bientôt.